Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce sixième dimanche après la Pentecôte se déroulent ces paraboles où notre Seigneur ici nous donne cette multiplication des pains dans le territoire qui était au nord et qui était très proche des Samaritains, des Galiléens, des païens. Et ce miracle qu'il fait pour 4000 personnes, il le fait pour toucher ces personnes qui, comme il le dit, sont loin, alors même qu'il avait déjà multiplié les pains en Judée. Mais nous devons bien comprendre que ce n'est pas par hasard que nous avons la lecture souvent de saint Paul et cet évangile, car cette nourriture qui nous est donnée est une nourriture eucharistique, c'est la sainte hostie que nous recevons. Et lorsque saint Paul nous parle de la mort, c'est bien sûr ces personnes qui suivent le Christ et qui sont depuis 3 jours sans manger, comme le Christ est resté 3 jours au tombeau, alors que son âme visitait les justes qui avaient précédé son incarnation et sa crucifixion, ce qu'on appelle les enfers. L'enfer étant le lieu de haine éternelle, les enfers, dans le « Je crois en Dieu », désigne le lieu où se trouvaient les âmes qui attendaient la rédemption, mais qui ne pouvaient pas encore vivre de Dieu et voir Dieu, car le salut n'avait pas été encore accompli par la mort et la résurrection de l'agneau de Dieu. Ainsi donc, il nous est dit ce soir, et pour notre été, eh bien, de comprendre la mort et la vie. Le fait de mourir de faim et de mourir de notre péché et le fait de manger, de nous vivifier, de vivre. En effet, nous devons bien comprendre par un exemple très simple. Une personne qui connaît les approvisionnements de Paris me disait « Si pendant 3 jours il y a des gros problèmes d'approvisionnement à Paris, ça sera la révolution. » De ne pas manger pendant 3 jours, les Parisiens seront électriques, très énervés et se jetteront sur tout ce qui bouge. Et une personne passait à nos côtés, pendant que nous avions cette discussion légère et prinsautière, et elle nous dit « Non, pas 3, mais 2. Si vraiment les camions ne peuvent plus rentrer dans Paris et qu'il n'y a pas d'eau potable et de nourriture, les Français de Paris, les habitants de Paris, eh bien, partiront dans tous les coins, exigeront cette nourriture, incendieront la mairie de Paris, pauvre Madame Hidalgo. » Tout cela pour vous dire que cette nourriture, elle est abstraite, elle est belle lorsqu'on vous parle de la Sainte Eucharistie, mais pour ceux qui ont eu faim, c'est très concret. Mais cet exemple est un peu lointain pour nous, car nous n'avons pas eu faim, nous n'avons pas eu peur de mourir de faim. Or, c'est un instinct naturel qui, chez nous, fait que nous avons horreur de la mort. Cette mort, qu'elle soit une mort de faim, une mort la pire, une mort de soif, eh bien, elle nous terrifie. Et même si des personnes ont l'impression qu'elles domineront ces moments, en fait, lorsque cette angoisse arrive, cette menace de la séparation du corps et de l'âme, avec des souffrances physiques éventuelles, tout cela est même contre nature. Pourquoi ? Eh bien, lorsque Dieu a créé cette nature humaine avec un corps et un animal et un esprit, comme les anges, Il a couronné sa création. Mais du fait de notre âme, qui est immortelle et qui en est consciente, quoi qu'on en dise, eh bien, nous avons horreur de cette fin provisoire qu'est le dysfonctionnement de notre corps. Et nous ne savons pas ce qui se passe. Notre âme veut continuer à animer ce corps. Notre esprit veut continuer à penser, à comprendre, à aimer, à se souvenir, à imaginer. Et pour nous, c'est l'inconnu. Alors, nous écoutons bien sûr les récits de ceux qui ont eu une expérience où ils ont vu une lumière au bout d'un couloir, que ça soit une imagination ou un songe ou une vision. Eh bien, de toute façon, cela ne nous rassure pas. Et pourtant, lorsque nous péchons, nous n'avons pas l'impression d'être blessés. Nous n'avons pas l'impression de mourir. Il y a le péché de faiblesse, et qui est celui qui fait peur à ceux qui sont les plus consciencieux. Mais il y a le péché de malice, c'est-à-dire le plaisir que l'on prend à voir souffrir les autres, ou de briser l'amitié, ou de briser une relation, ou d'inquiéter une personne. Voilà ce qui est profondément contre nature aussi. Et notre Seigneur, lui, vient prendre sur lui ce qui est contre nature. Il vient pacifique, il vient innocent, il vient agneau de Dieu. Et il excite la jalousie, il excite l'insatisfaction de personnes qui ne comprennent pas comment lui peut accomplir les 10 commandements. Comment lui peut-il être plus grand que Moïse? De la même façon, nous-mêmes, parfois, nous considérons que la sainteté est quelque chose qui est tellement abstraite que la prière du matin, du soir, le chapelet, tout cela est quelque chose d'impalpable. Et est-ce que nous avons un retour? Est-ce que Dieu se manifeste? Est-ce que nous aurons des bienfaits du fait d'être croyants, du fait d'être innocents, de faire des efforts pour l'être? Et cela est tellement impalpable que nous demandons à notre Seigneur des signes dans nos vies, des consolations, une facilité à prier, une facilité à venir pour se recueillir dans une église, mais aussi se recueillir chez nous. Eh bien, la réponse de notre Seigneur, c'est la résurrection. La réponse, c'est une nourriture. Puisque nous avons peur de mourir, mais nous n'avons pas assez peur de pécher, eh bien, il nous dit qu'il y a une nourriture, il nous dit qu'il y a des actes qui vont dépasser cette vie terrestre, cette crainte naturelle ou cette malice contre nature de l'homme. Et lorsque nous avons gâché un repas, lorsque nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons dit ou fait vis-à-vis de proches ou vis-à-vis d'amis ou vis-à-vis de personnes avec qui nous travaillons, cette impression que cette vie manque de facilité, de perfection. Eh bien, notre Seigneur, lui, répond en nous disant que malgré les moments de désert, il nous nourrira. Il faudra être patient. Il nous donnera, par les sacrements, par des signes, à travers notre vie, la preuve de sa présence. Oh, le baptême, surtout en Occident, où on verse l'eau simplement sur la tête, il est unique, un peu lointain. Et pourtant, saint Paul nous dit bien qu'il est surnaturel, que c'est une mort, et que nous sommes morts lors de notre baptême. Nous avons été noyés. Le baptême par immersion est beaucoup plus significatif. Le bébé, on le plonge dans l'eau. L'adulte, on le plonge dans l'eau. C'est pourquoi les protestants évangéliques ou les mouvements néo-catéchuménaux catholiques ou certains mouvements spirituels veulent à nouveau plonger totalement la personne dans l'eau. Ce n'est pas mauvais, au contraire, parce que le signe est fort. Mais il ne faudrait pas rebaptiser quelqu'un, parce que certains de ces mouvements vont vouloir dire « Ah ben, vous avez été baptisé, eh bien, on va vous rebaptiser vraiment, vraiment, en vous plongeant dans l'eau. » Et pourtant, voyez-vous qu'on ait un peu d'eau sur le front, ou qu'on soit plongé entièrement dans l'eau. C'est dans la mort de Jésus que nous sommes noyés, que nous sommes plongés, le mot baptême voulant dire plongé. Mais alors, quand on sort de l'eau et qu'on respire à nouveau, nous vivons. Et le sacrement qui va nous nourrir et qui va nous faire vivre, qui va nous empêcher de mourir de faim, eh bien, ce sera la prière. Et cette prière est nourriture, et la Sainte Hostie, c'est la présence du Christ. C'est le Christ qui prie, c'est le Verbe incarné. Et c'est une nourriture qui nous portera pendant des années. À nous de comprendre que humblement, par une prière un peu particulière, qu'est la confession, de prendre un témoin, un serviteur de Dieu tenu au silence complet, eh bien, de nous approcher de Dieu, qui s'est fait homme, né de la Vierge Marie, pour nous nourrir, pour être près de nous et pour nous donner sa propre vie. Oui, c'est le baptême qui s'épanouit dans l'Eucharistie, parce que c'est Jésus qui nous donne sa vie, c'est Jésus qui nous se donne totalement à nous. Et dans notre prière privée, chez nous, cette communion avec Dieu, le Père, avec Jésus, c'est la raison pour laquelle il ne suffit pas parfois de connaître le Notre Père. Essayons d'apprendre une prière à Jésus qui soit comme âme du Christ, sanctifiez-moi, sang du Christ, lavez-moi. Cette prière que les scouts connaissent souvent, mais une prière à Jésus qui est notre Dieu, notre frère, notre grand frère, notre sauveur. Car c'est avec lui que nous vivons. C'est lui que nous rencontrerons lorsque nous quitterons cette terre, avec les retrouvailles, avec ceux que nous avons aimés et qui se sont sauvés. Eh bien, cette vie de famille, elle continuera, elle dépassera cette vie terrestre. Eh bien, que la Vierge Marie nous donne cette soif, qu'elle nous donne cette nourriture, ce pain vivant, son Fils, son propre Fils, elle qui protège cette foi, cette espérance et cette charité, parce qu'elle a été désignée comme notre mère au pied de la croix. Oui, que Notre-Dame de Fatima, en ce centenaire, nous accompagne pour que nous puissions vraiment croire que Dieu s'est fait homme et qu'il nous a donné sa vie, une vie humaine et une vie divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.